comme disent les Anglais, get me out of here.
Bon alors, bonsoir à tous. Bonsoir Olivier Mouni.
Bonsoir Flair.
Ça ne vous fait pas bizarre ?
Un peu, mon neveu. Si, si, ça me fait très très bizarre. J'ai beaucoup plus l'habitude d'être à votre place qu'à celle-ci.
N'est-ce pas ? Je pense qu'il y en a qui vous ont quand même reconnu, hein, parce que vous êtes quand même, avant tout, en ce qui concerne Mola, l'un des plus actifs modérateurs de nos conférences.
Oui, depuis, pour ainsi dire, la création de la librairie Mola, il y a un peu plus de 100 ans maintenant.
Ce qui ne vous rajeunit pas, donc. Donc vous êtes ici... Vous êtes ici pour donc nous parler de votre dernier livre, Du beau monde, publié aux éditions du Festin. Donc c'est un livre qui réunit un certain nombre de textes, une quarantaine de textes qui frisent un petit peu avec la nouvelle, qui, pour une bonne partie d'entre eux, sont déjà parus dans des journaux, style Le Sud-Ouest, Le Figaro Magazine.
Style, ouais.
Voilà, par exemple. Et quelques inédits, donc on reviendra là-dessus. Et donc, on va dire que pour le fil conducteur de ce recueil, c'est donc, est assez clairement indiqué par le titre, donc, Du beau monde. Donc il s'agit essentiellement de textes assez courts qui sont pour la plupart empreints de nostalgie et évoquent de près ou de loin des écrivains, pour l'essentiel, mais pas seulement. Donc des écrivains, également des chanteurs, un éditeur, des cinéastes. Donc pas mal de beaux mondes et aussi beaucoup de lieux. Donc ça va être des sujets que nous allons aborder, entre autres choses, évidemment. Donc voilà. Alors, première petite question, d'où vous est venu ce titre du beau monde ? S'est imposé à vous comme ça ? Est-ce que vous avez commencé tout de suite ? Non, dites-moi.
Non, je vois le responsable de cet abominable forfait qui sourit au fond de la salle. Ce titre m'est venu du fond de la salle, c'est-à-dire de mon éditeur, Xavier Rosan. Je ne sais pas si je suis à l'aise avec quoi que ce soit en matière d'écriture, mais en tout cas, une chose est sûre, je ne suis pas à l'aise avec les titres. Je l'en avais proposé un certain nombre qui, dont force m'est de reconnaître qu'ils étaient tous aussi absurdes les uns que les autres. Notamment un titre qui était gravé sur une tombe de chien du cimetière canin d'Anières, qui était « Adieu, Falbala, danse, cigarette ». Mais pour une raison que j'ignore, mon éditeur n'a pas souhaité retenir cette proposition. Pourtant original.
Certes.
Et m'a proposé ce qui m'est apparu comme effectivement une bonne idée, ce qui m'apparaît d'autant plus maintenant avec le recul comme une bonne idée, ce du beau monde qui n'est pas à prendre évidemment comme tous les titres au pied de la lettre et qui peut-être comporte une certaine part d'ironie. C'est-à-dire que le beau monde dont il est question dans ces pages est composé aussi, pas que, de pas mal de fatuité, d'un peu de sottise aussi. Et je ne suis pas persuadé d'avoir envie de passer ma vie entière dans la compagnie de ce beau monde-là. Mais de temps en temps, c'est pas désagréable.
Peut-être avez-vous vu, ou des personnes dans la salle, le film italien qui est en ce moment même à l'Utopia, à l'affiche, qui s'appelle La Bella Gente.
J'en ai entendu parler.
Oui.
Non, j'ai pas vu.
C'est un petit peu cette idée-là. D'accord. Et donc, ce beau monde, donc il y a quand même un certain nombre de fantômes que l'on croise dans ces pages, mais aussi des écrivains que vous avez rencontrés.
Oui.
Donc, pas mal. Est-ce que vous voudriez nous parler de quelques-unes de ces rencontres ?
Je sais pas, vous voulez que je vous parle de qui ? Non, effectivement, il y a... Il y a pas mal de fantômes parce que j'aime bien les fantômes. Enfin, moi qui ai peur d'à peu près tout, j'ai pas peur des fantômes. J'ai peur des souris, mais j'ai pas peur des fantômes. Au contraire, leur compagnie m'est infiniment plaisante. Et tout mécréant que je sois est résolument fermé à toute forme de transcendance. J'aime bien de temps en temps m'imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose comme des gentils fantômes autour de nous, singulièrement dans les rayons de nos bibliothèques. Donc oui, effectivement, vous avez raison, il y a des fantômes dans ces textes.
Donc si je me permets de vous citer...
Oh ben, soyons fous.
Donc il faut croire aux fantômes et ne pas les craindre, ils sont gentils, ils t'ont... On parle là, donc c'est vous essayez de les réhabiliter un petit peu.
Je pense que c'est une réminiscence de Casper le gentil fantôme que je lisais quand j'étais enfant, mais pas que. Oui, la compagnie des fantômes n'est pas totalement déplaisante par définition, pour peu que l'on décide de s'y adonner pleinement. Mais il n'y a pas que des fantômes, vous l'avez dit, il y a des êtres de chair et de sang encore. À commencer par l'écrivain tout au plus. Vous savez, ça me fait penser à une anecdote. Un jour, c'était Pierre Granier de Fer qui voulait adapter de très très beaux romans de Patrick Modiano, c'est une mémarotte, Modiano, Villa Triste, qui a écrit un script avec Jean-Marc Roberts, écrivain lui aussi, adaptant Villa Triste. Et quand, d'ailleurs, le film a fini par être adapté, mais des années plus tard, et pas par Pierre Granier de Fer, mais par Patrice Lecomte, sous le titre un peu olé olé et parfaitement absurde de Le Parfum d'Yvonne. Donc il a présenté son script à des producteurs qui ont dit « c'est formidable, on va le faire ». La seule chose qui ne va pas, c'est le titre. Villa Triste, mettez Villa Gay plutôt à la place. Et le projet d'adaptation, on est resté là. Donc je vous dis, non, il n'y a pas que des fantômes, mais il y a aussi des êtres de chair et de sang pleinement inscrits dans la vie. Mais au fond, il n'y a que des fantômes immatériels et des fantômes plus matérialisés.
D'accord. Et donc ces fantômes, donc on y reste, sont un peu la preuve, mais montre à quel point vous attachez à peut-être ce qui a été, ce qui fut, plutôt que ce qui est. En fait, ce sont des pages, moi, ce qui m'a frappé dans ce recueil, dans cet entame de texte, c'est la nostalgie qui en émane. Je pense que c'est quand même assez marquant.
Je sais jamais très bien quoi répondre à ça, mais c'est pas du tout, ne prenez pas en mauvaise part, Fleur. Mais c'est comme quand les gens vous disent de vos textes, parfois, à moi je dis pas beaucoup, et vous avez beaucoup d'humour, hein. Ah, c'est toujours un peu délicat de répondre, oui, je suis extrêmement drôle. alors là, c'est un peu pareil. On me dit que mes textes sont nostalgiques. J'imagine qu'on me le dit tellement qu'il doit y avoir une part de vérité.
Vous en doutez ?
Non.
Mais, d'accord.
non, pas vraiment. Maintenant, mes modestes moyens de journaliste pigiste ne m'autorisent pas à suivre une thérapie assez longue pour vous expliquer précisément d'où vient cette nostalgie.
Peut-être auriez pu vous employer la bourse liée au prix Annecy à cet effet.
Oui, mais elle a servi à toutes sortes d'autres achats, champagne et salami, et effectivement, pas sans doute à ce qui aurait été le plus nécessaire.
D'accord. Donc si on disait de vous que vous êtes un nostalgique inconsolable, ça ne vous dérangerait pas à votre mesure?
Si, je ne suis absolument pas inconsolable, d'ailleurs je ne suis pas triste du tout, et je suis tout ce qu'il y a de plus consolable.
D'accord. parce que vous écrivez régulièrement, donc à la fin de ces textes, les fins sont assez belles, assez poétiques, ce qui ne tranche pas particulièrement avec l'ensemble, je vous rassure tout de suite. Mais souvent, on a un petit mot de la fin, par exemple dans le cas de Pascal Jardin, qui manque aujourd'hui, ainsi qu'un certain nombre de ces de ce beau monde dont vous parlez.
Oui, vous avez raison. Ouais, j'aime beaucoup Pascal Jardin, parce qu'il est vraiment un écrivain selon mon cœur, c'est-à-dire qu'il est un peu malgré lui ou par-devers lui. Il a écrit deux livres qui sont des modèles, à mon avis, de recréation rêvée et nostalgique autour du monde de l'enfance et de la jeunesse, qui sont La guerre à 7 ans et... aidez-moi, La guerre à 7 ans et celui d'après.
Le nain jaune ?
Non, pas Le nain jaune. Le nain jaune, je suis un peu plus réservé. Enfin, un livre où il raconte sa vie parisienne et ses soirées parisiennes. La guerre à 7 ans et...
Je vais le retrouver.
Ça va me revenir, excusez-moi. Et c'est un personnage...
C'est La guerre à 9 ans.
C'est La guerre à 9 ans, oui, c'est ça.
Et
oui.
Guerre après guerre.
Et guerre après guerre, c'est Guerre après guerre dont je voulais parler. Merci. Il est bourré de talent, mais son plus grand talent est d'à peu près rater tout ce qu'il entreprend, qui lui paraît vraiment important. Il n'écrira pas le très grand livre qu'il souhaitait écrire. Il a écrit, je sais pas, plus d'une centaine de scénarios qui sont tout à fait dispensables. Certains sont pas mal, hein, c'est pas du tout, mais qui sont tout à fait dispensables. Il passera sa vie amoureux de la même femme, et tout en se consacrant exclusivement à en avoir le plus grand nombre possible, surtout si elles ont des bottes, ce qui est une différence avec moi, qui m'attache beaucoup moins à la manière dont les femmes sont chaussées. C'est un espèce de ludion sympathique, un peu désagréable par certains aspects, bourré de talent. Alors effectivement, le portrait qu'il fait de son père dans Le Nain jaune, on en a beaucoup parlé avec le livre de son fils aujourd'hui, Alexandre, sur lequel je me prononcerai pas, ne l'ayant pas lu.
Ça m'ennuie beaucoup, je voulais vous demander en suivant.
Non, je l'ai pas lu, je suis vraiment désolé, mais mais est empreint d'une certaine forme de sympathie. Et puis c'est un, voilà, c'est un fils, quoi. C'est un espèce de fils éternel qui n'arrive pas à être autre chose qu'un fils, un gamin, un sale gamin, un peu rêveur, un peu voyou sur les bords. Et dans cette époque formidablement normée, où la sphère littéraire n'échappe pas à ses perspectives de carrière, de trucs, de machins plutôt malodorants, des personnages comme ça sont nonobstant des bouffées d'air pur. Voilà.
D'accord. Donc, pas mal de vos textes se passent toujours dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40.
Pas mal. Et 50 aussi, si je peux
50,
me permettre.
Oui, 50, c'est... En fait, j'essaie de voir le lien pour l'organisation, en fait. Est-ce que c'est tout simplement l'ordre dans lequel vous avez écrit, ou est-ce que...
Non, pas du tout.
Est-ce que vous l'avez choisi, ou est-ce qu'il faut inculper la personne au fond de la salle?
Si vous cherchez à connaître mon année de naissance, ce n'est pas ça non plus. Non, c'est un hasard. Vous l'avez dit très bien, la plupart de ces textes, les deux tiers à peu près de ces textes, sont déjà parus dans différents journaux, donc correspondent à des commandes qui ont été retravaillées, hein, bien entendu. Et d'autres sont plus autobiographiques et donc nécessairement inédits et écrits spécialement pour ce volume. Non, je me suis aperçu effectivement en relisant les textes, en parlant avec Xavier Rosan, je me suis aperçu qu'il y avait un tropisme, moi je dirais pas mal années 50-60, qui relève de paradoxalement de mes souvenirs d'enfance. Moi je suis né dans les années, en plein cœur des années 60, je vais vous le dire, en 1966, mais à Bordeaux, et dans une ville dans laquelle le passé proche était, et demeure d'une certaine manière, mais était quand même extrêmement présente, dans laquelle cette France un peu noire, un peu triste, mais pas que, des années 50 était très très présente, et dans laquelle les fantômes, on peut en parler, les fantômes de la guerre, me semblent, avec le recul, avoir été formidablement pesant, présent et pesant. Voilà. Donc, en relisant tout ça, je me suis dit que voilà, ça, là aussi, miracle de l'inconscient, ça procédait un peu de ça. Ouais.
Alors, puisqu'on en est au clairement autobiographique, et que vous avez mentionné donc la partie des textes inédits, est-ce que ça vous ennuie de nous juste de faire le point sur ceux qui ont été écrits juste pour ce recueil et...
Non. Donc, de mémoire, il y a le texte introductif du volume qui s'appelle La perspective Mandel et qui est un texte qui évoque le Bordeaux de mon enfance et plus singulièrement le quartier de Bordeaux dans lequel j'ai vécu la plus grande partie de mon enfance et de ma jeunesse, qui est le quartier Croix-Blanche-Saint-Serin. J'ai écrit aussi un texte qui me tient énormément à cœur parce que, pour plein de raisons, et notamment parce que je pensais fortement à quelqu'un en l'écrivant, sur mon autre Querencia, mon autre Éden perdu de Saint-Jean-de-Luz.
Dernier vers à la marine.
Dernier vers à la marine, oui, c'est ça. Et puis, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Quand j'étais belge », tout un programme, dans lequel Saint-Jean-de-Luz n'est pas absent non plus, sur ma fascination. J'ai appris à lire en lisant les journaux de Spirou et de Tintin, comme beaucoup ici, j'imagine. Mais curieusement, pas ceux de mon époque, mais ceux ceux qui appartenaient à mon père et à mon oncle, qui allaient donc des années d'une génération avant, des années qui ont acheté régulièrement, Dieu merci, il ne me manque pas un numéro, les journaux de Spirou et de Tintin entre 1947 et 1962, donc bien avant ma naissance. Et donc ça répond peut-être aussi à la question de la nostalgie. Là, pour le coup, il faudrait que je demande à un homme de l'art, en l'occurrence. Que finalement, cette nostalgie, elle se vit au présent pour moi, puisque je vivais au présent quelque chose qui était déjà passé et publié depuis 15 ou 20 ans auparavant. Vous voyez ? Ce qui est une position un peu délicate, quasi schizophrénique, pas désagréable, et qui puisse justifier le côté nostalgique, comme vous dites, un peu alangui de tristesse de certains textes.
Avez-vous l'impression d'être né trop tard Est-ce que vous auriez voulu appartenir à une autre époque ?
Ça dépend des jours. Des fois, j'ai l'impression d'être né trop tôt. Parfois, le plus souvent. Non, ça ne veut pas dire grand-chose, ça, en fait. Tout dépend de l'âge de mon interlocuteur, Trace.
En parlant de l'âge de naissance, hein, je ne voudrais pas faire une fixation dessus, ce serait dommage. Mais vous écrivez quelque part alors c'est quelque chose sur l'âge des lecteurs qui oui. est. Il faut que je la retrouve parce qu'elle est assez belle celle-là. Voilà, l'état civil des lecteurs n'est-il pas d'abord celui de leur lecture ?
Ouais.
Du coup.
Oui, c'est à propos du texte sur la bande dessinée.
Cela, voilà, précisément. Quand oui, seriez-vous né, du coup, s'il faudrait donner une date liée à une œuvre majeure
Ah non, moi, à ce moment-là, oui, pour vous répondre, je serais né dans le laps de temps où André Franquin a dessiné 19 aventures de Spirou et Fantasio entre 1945 et 1964, je crois. QRN sur Bratzelburg, le dernier album, 64. Donc oui, si j'avais une machine à remonter le temps et que mon enfance pouvait se dérouler quelque part par là, je pense que je ne me sentirais pas excessivement dépaysé. C'est l'idée que... C'est l'idée de cette espèce de transmutation très curieuse que provoque la lecture, que provoque le cinéma aussi. Moi, j'étais très cinéphile, je suis un peu moins maintenant. Et qui fait que, je sais pas, je cite un exemple, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est à chacun d'y mettre les œuvres qu'il souhaite, mais un jour, vous avez 15 ans ou 16 ans, et pour la première fois, vous êtes dans une salle de cinéma, à l'époque où il y avait encore des salles de cinéma qui diffusaient des vieux films, comme on dit, expression que je déteste, et vous voyez, vous voyez Johnny Guitar de Nicolas Ray, par exemple. Qui parle de trucs dont vous ne connaissez rien. Ça se passe dans l'Ouest américain, vous n'y avez jamais fichu les pieds, vous n'avez pour ainsi dire jamais allé plus loin que Saint-Jean-de-Luz dans toute votre existence. Qui parle d'amour, de trahison, de désir de possession, de remords, de vengeance, sentiments pour lesquels vous n'avez qu'une une familiarité assez lointaine. Et pourtant, vous avez l'impression que ce film-là, en l'occurrence, a été écrit, filmé, tout spécialement pour vous. Alors que ça ne vous concerne en rien. Je ne sais pas du tout pourquoi je vous disais ça, mais c'est intéressant.
tout simplement parce que vous étiez un passionné de cinéma, c'est quand même un thème que l'on retrouve, c'est un de vos tropismes.
Voilà.
Vous seriez né aussi René à ce moment-là, quand vous l'avez vu.
Je suis tout ce que vous voulez, sauf René, mais... quand on est complètement dans une œuvre, on est pleinement dedans et on est contemporain de cette œuvre-là, je crois. Alors ça peut être l'éducation sentimentale de Flaubert, ça peut être ce que vous voulez. J'ai relu à l'occasion de la retraduction, la nouvelle traduction plutôt, Gatsby le Magnifique. Le temps de la lecture, j'étais à Long Island, j'étais né à Long Island, enfin né un peu plus même à Long Island en 1925, oui bien sûr. Sachant que le principe, il n'y a pas de principe d'ailleurs, mais s'il y en avait un, c'est de ne pas être cuistre et de tout prendre et d'essayer de garder cette fraîcheur de jeunesse comme ça, de se laisser complètement faire, de se laisser aller.
Très bien. Vous avez commencé à évoquer le cinéma, j'aimerais quand même que l'on creuse ce sujet parce que... il ne peut pas échapper au moindre lecteur le fait que vous y connaissez plutôt bien dans ce domaine. D'où vous est venue cette passion pour le 7e art ?
Je ne sais pas si je m'y connais bien d'abord. Je m'y connais beaucoup moins bien que ma consœur et amie Sophie Avon, dont je suis extrêmement admiratif de ses qualités d'écriture au quotidien, dans le quotidien et au quotidien. Moi, j'ai perdu beaucoup de cet élan-là qu'elle n'a pas perdu un instant. Donc ça, voilà, je tenais à le dire. Et pour vous répondre... d'un truc où... là, pour le coup, je vais être un peu cuistre. J'aime les arts solitaires. J'aime les plaisirs solitaires. Voilà, ça sera la phrase du soir. Et la lecture en est un. Et le cinéma en est quand même un autre. Quand même. Je ne vais jamais au théâtre. Je ne supporte pas le théâtre. Je suis terrorisé par le théâtre. Je pense qu'à tout instant, quelqu'un va me désigner du doigt et va me demander de monter sur scène, ce qui est mon cauchemar le plus absolu. En revanche, j'aime l'espèce de solitude à plusieurs, de salle noire qu'implique le cinéma. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça va continuer comme ça très longtemps. Je pense qu'il y a des modes de consommation qui ont beaucoup changé maintenant avec les DVD, le truc Internet, tout ça. Mais bon, j'en sais rien. Puis à la limite, c'est plus mon histoire, je m'en fiche. Mais donc, l'adolescent timide que j'étais aimait bien se réfugier dans des salles de cinéma pour y vivre des histoires qui risquaient pas de que cette timidité justement l'empêchait certainement de vivre. Ouais. Donc voilà, ça vient de là, ça vient de ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Johnny Guitar. C'est marrant parce que je me souviens de ça très fortement, mais vous pouvez mettre tous les titres que vous voulez.
Et cette passion pour le cinéma, vous n'en avez rien fait avant de venir à...
C'est un reproche.
C'est une question.
Non, parce qu'alors il y a un problème avec le cinéma, c'est que j'aurais bien aimé faire du cinéma, mais je sais pas travailler en équipe du tout, et c'est une organisation absolument infernale. Déjà, l'équipe que forme mon stylo, ma feuille de papier et moi a du mal à s'entendre. Alors si vous mettez 15 bons hommes, qu'est-ce que je dis, 1500 bons hommes derrière, c'est pour moi, c'est le moindre truc, ça serait la construction de la cathédrale de Chartres, vous voyez. Donc non. Ceci étant, je suis ouvert à toute proposition d'adaptation de Nouveau Monde.
Voilà, le message est clair. En tout cas, grâce à ce centre d'intérêt qui est le vôtre et celui de quand même partagé par un certain nombre de cinéphile, on pourra dire qu'on apprend quand même des anecdotes plutôt intéressantes, notamment quand on connaît bien le Pays Basque, mais finalement beaucoup moins qu'on le pensait, ce qui est par exemple mon cas, très humblement. Notamment, vous mentionnez, alors j'aimerais juste vous faire revenir sur deux festivals. L'un, le festival du film Maudit qui s'est tenu à Biarritz en 1949.
Oui.
Donc si vous pouviez nous en dire deux mots. Et l'autre, ce sera le festival Sigma Donc...
Oui, qui est bordelais, lui, en revanche.
Oui, qui est bordelais, voilà.
Alors, le Festival du film maudit, oui, s'est tenu en 1949, était organisé par une association totalement parisienne qui s'appelait Objectif 49, qui était notamment co-présidée par Jean Cocteau. Et dans l'immédiat après-guerre, se voulait, ou pendant très long, pendant la guerre, on n'avait pas eu accès à un pan à peu près essentiel de la création cinématographique mondiale, ni les Américains, ni les Russes, hein, ce qui faisait pas mal à l'époque, ni leurs alliés, bien sûr. Permettait de un peu rattraper leur retard, ou le retard en l'occurrence. Ça a été un festival qui a été assez synchrone avec la grande vague de cinéphilie qui s'est déclenchée notamment sur la France, mais sur toute l'Europe. À ce moment-là, et on a vu arriver un tas de... Alors le problème, c'est que Cocteau, qui était très ami, avait le marquis d'Arcangues, le grand-père de l'actuel, c'est-à-dire Pierre d'Arcangues. Le marquis d'Arcangues, qui dirigeait l'office de tourisme de la ville de Biarritz, avait l'intention de faire un espèce de festival de Cannes concurrent. Faute de quoi, il a vu arriver tout un tas de jeunes gens extrêmement désargentés, sans cravate, chevelu, en rupture de banc avec la société, leur famille et les exigences du service militaire, comme Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, qui avait 17 ans. Oui, c'est ça. Et c'est un moment très important de l'histoire de la cinéphilie. En gros, c'est un moment qui va donner naissance 2 ans plus tard à la création des Cahiers du cinéma. Tous ces jeunes gens-là, regroupés autour d'André Bazin, vont créer 2 ans plus tard, avec Philippe Aki aussi, vont créer les Cahiers du cinéma. Et le Festival Sigma, ça, je suis pas le mieux placé pour en parler. D'autres l'ont fait beaucoup mieux que moi, puisque je vous expliquais que j'avais un peu peur du spectacle vivant. Pour moi, j'en parle pas dans mon livre, mais c'est des souvenirs assez cuisants, le Festival Sigma, parce que mes parents me traînaient dans des trucs où, alors là, pour le coup, les gens hurlaient, vous balançaient de la barbac à la figure et tout, et je voyais pas, enfin, ça me paraissait pas opportun. Donc je crains d'avoir une attitude assez violemment réactionnaire entre mes 10 ans et mes 12 ans vis-à-vis du Festival Sigma. Par ailleurs, toute plaisanterie mise à part, une espèce d'oasis de liberté dans une ville qui était quand même un petit peu, peut-être, corsetée dans ces années 60. Sigma est créé en quoi, 64, 65, je pense, quelque chose comme ça. J'espère ne pas dire de sottises. C'est un peu la naissance de quelque chose, c'est-à-dire aussi la naissance du destin national du duc d'Aquitaine. Enfin, la confirmation de son destin national, donc la volonté de créer un mouvement. Bon, tout ça est un peu rapide, mais c'est vrai que c'est assez fascinant maintenant, avec le recul, de s'imaginer que les Pink Floyd, d'ailleurs, contrairement à ce qui est dit, les Pink Floyd n'ont pas joué à Sigma, mais ont joué tout à fait en dehors des périodes du Festival Sigma, mais organisé par l'équipe de Roger Lafosse. Organisé par Sigma, et ils ont joué à l'Alhambra en 1967, à l'époque où c'était les vrais Pink Floyd, le premier combo avec Syd Barrett, qui allait quitter le groupe un an plus tard pour intégrer un asile de fous dont il ne sortirait plus que les 4 pieds devant, 35 ans plus tard. Voilà.
Alors, on a l'impression que vous y étiez.
Allez savoir.
Oui. Et vous parlez du Festival de Cannes, inévitablement.
Oui.
Qui d'ailleurs a failli avoir lieu chaque année à Biarritz.
Oui. Oui, quand on a créé... Cannes a été créé pour concurrencer Venise, qui était le grand festival.
La Mostra de Venise.
La Mostra de Venise, oui. Et on ne savait pas très bien où le mettre. Je ne sais pas, j'ai jamais très bien... Je crois que la volonté première, c'était Biarritz. Immédiatement après-guerre. Il y a eu une première édition de Cannes, mais qui était une édition un peu ratée, et d'autant plus ratée que la guerre a été déclarée en 39, au moment du festival. Donc, faute à pas de chance. Donc, ensuite, l'après-guerre, je pense que c'est 44 ou 45. Je suis sûr que c'est l'après-guerre, mais je ne sais plus exactement si c'est 44 ou 45 que le festival a repris. Je sais que le gouvernement français, Robert Favre, je dis le gouvernement parce que c'était vraiment une opération publique, hein, Robert Favre-Lebret, qui a été l'organisateur pendant 30 ans, comme aujourd'hui Gilles Jacob, du Festival de Cannes, s'est demandé savaient dans quelle ville d'eau ils allaient pouvoir mettre le festival. Je crois que Biarritz a été choisi initialement et j'ignore les raisons pour lesquelles finalement c'est reparti à Cannes. Il y aurait peut-être un petit boulot de recherche à faire dans les archives des délibérations de la ville de Biarritz. Je ne sais pas exactement.
Dommage, c'était... Dommage parce que c'était intéressant. Mais
Oui. On a raté ça.
Oui, c'est sûr. Vous parlez aussi beaucoup de Saint-Jean-de-Luz. Mmh. Je pense que vous connaissez particulièrement bien. Donc, il y a une nouvelle dans laquelle vous parlez de la Villa Banzai.
Oui, c'était ce qu'il est convenu d'appeler de ma villa familiale, oui.
D'accord. Et dans cette même nouvelle, dans ce même texte, vous faites une description de Saint-Jean-de-Luz qui est un petit peu surprenante. Donc on lit à un moment donné que c'est une vieille dame moustachue. Puis-je savoir d'où vient cette image ? C'est en pensant à votre grand-mère ou c'était...
je sais pas. Mais je vous autorise choquée, tout à fait. Non, ma grand-mère faisait très attention à sa pilosité. Si mes souvenirs qui commencent à être lointains sont bons. Oui, c'est une. Saint-Jean, c'était une ville que je détestais quand j'avais 20 ans. Enfin, je détestais pas, mais je préférais 100 fois aller faire le foufou à Biarritz que des bises à des vieilles dames moustachues à Saint-Jean-de-Luz. Et maintenant, je dois dire que j'y reviens un peu. C'est une ville très provincial, Saint-Jean, quand même, au sens le plus désagréable du terme. Aussi, pas que, hein, mais aussi. En plus, moi, je me souviens des amis de ma grand-mère, de la messe du samedi soir plus que du dimanche matin, parce qu'il est de bon ton d'y aller le samedi soir à Saint-Jean-de-Luz, sachez-le. Tout ça ne respirait pas tellement la jeunesse triomphante. Or, moi, j'étais pas triomphant, mais j'étais jeune. Donc, j'avais quand même l'idée que c'était une ville de vieille dame moustache. Cette ville était comme une vieille dame moustachue, ouais. Mais je sais pas. Et puis, en plus, je pense que, pour tout vous dire, j'ai dû trouver ça joli quand je l'ai écrit.
D'accord. Et donc, une ville... alors, vous vous avez dit qu'il était de bon ton de faire... un certain nombre de choses d'ailleurs à Saint-Jean-de-Luz, parce que c'est quand même une ville qui donne l'impression d'être un petit peu snob, plus que Biarritz, sans doute, ou qui l'affiche peut-être plus.
C'est différent.
Différent.
Oui, c'est une ville assez snob, oui. Là, vous avez tout à fait raison.
Et c'est. Donc, ce snobisme, est-ce que c'est ça qui vous attire à Saint-Jean-de-Luz, ou est-ce que. Parce que c'est quand même un thème, je voudrais pas vous attaquer personnellement, mais c'est un thème qui revient particulièrement souvent.
Les snobs ?
Oui, les snobs, vous faites allusion au dictionnaire du snob de Julian, oui. Snob Society.
C'est pas le caractère snob de Saint-Jean-de-Luz qui m'attire, parce que ce serait supposé que je ne le suis pas. Or, si vous m'accordez ou m'accusez, je ne sais pas, que je puisse l'être, j'ai pas besoin d'aller rechercher d'autres snobs. Ça va, merci, le snob se suffit à lui-même, en général. Donc non, c'est pas précisément ça qui m'attire. Ce qui m'attire, comme dans toutes les villes, c'est le contraste. Et parce qu'il y a des contrastes assez forts à Saint-Jean-de-Luz, qui dépassent largement ce caractère un peu snob de ce grand débat métaphysique qui parcourt la ville depuis 80 ans. Doit-on préférer les macarons de chez Adam ou les mouchous de chez Pariès ? Débat que je n'ai pas totalement tranché, même si aujourd'hui je suis plus mouchou de chez Pariès, sachez-le. Ceci posé, voilà, c'est pas, y a pas que ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est une ville en constante réinvention. Là aussi, un peu comme toutes les villes. C'est une ville inconsciente d'elle-même. C'est une ville où les municipalités, ça reste entre nous, hein, sont absolument indigentes depuis toujours. D'une parfaite inconséquence quant au trésor qu'elles ont entre leurs mains. Mais c'est pas grave, ça avance quand même. Mais je pourrais dire la même chose de Biarritz en même temps. C'est une ville, Et c'était vrai, c'était ce que me disait mon défunt ami, à qui je pense beaucoup, toujours, à qui je pense, si je dis tous les jours, je crois que je n'exagère pas, Jean-Claude Lasserre, que certains parmi vous ont dû connaître dans cette salle, qui était conservateur de l'inventaire, et qui était un grand ami du Festin aussi, ô combien, et encore plus, et qui un jour me disait de Biarritz, que à Biarritz, ce qui avait été fabuleux, c'est que même le lait participait du beau, ce dont je suis absolument convaincu aussi. Et il y a de ça à Saint-Jean. Je ne dirais pas le lait pour ce qui concerne Saint-Jean, je dirais le vulgaire. Même le vulgaire participe du beau à Saint-Jean. Et ça, ça me plaît bien.
Ouais. Vulgaire qu'il faut savoir tenir à l'écart à tout prix. Tout même.
Oui, ce sont des mots.
Ce sont des mots. D'accord. Donc, quand on parle des lieux donc, qui sont tout aussi présents et tout aussi importants dans vos textes que les personnages, on sent que vous avez quand même un goût assez prononcé du voyage. D'ailleurs, grâce à votre métier, vous avez l'occasion de partir assez souvent à la rencontre d'écrivains, que ce soit donc des écrivains français ou étrangers. Je crois savoir que vous êtes allé en Colombie dernièrement, peut-être à Istanbul aussi.
Vous êtes très bien enseigné.
D'ailleurs, j'ai noté, j'étais surprise par l'absence de la moindre ligne, de la moindre référence à ces voyages-là, alors que vous parlez quand même de... Il n'y a pas vraiment d'unité géographique, même si là, vous parlez pas du sud-ouest, mais ça s'en éloigne. Oui. Est-ce que ces villes ne vous ont pas inspiré?
Ça serait à mes lecteurs de le lire, mais... Non, c'était une volonté, alors là, vraiment commune de mon éditeur et de moi-même, de mis à part... Une ou deux personnalités, parce qu'elles sont constitutives de mon rapport à la littérature contemporaine. Je pense à Patrick Modiano, à James Salter, l'écrivain américain, à Jay McInerney, écrivain américain également. On n'a pas souhaité prendre trop les portraits que j'avais fait d'écrivains contemporains, y compris... oui, non, vous avez raison, parce qu'il y a une exception qui confirme la règle. C'est le voyage que j'ai fait à Los Angeles pour rencontrer... Enfin, à Los Angeles et à Santa Barbara pour rencontrer...
T.C. Boyle,
voilà. Mm. Là, j'ai souhaité qu'on laisse ce texte-là, même si la question a pu se poser. Pas pour T.C. Boyle, mais pour Los Angeles et Santa Barbara, parce que c'est tout ce que je viens de vous dire sur le Pays Basque, ça s'applique à Los Angeles. Je trouve d'ailleurs la lumière est très proche, puissance 10, quoi. Donc moi je suis revenu de là totalement transformé, avec des t-shirts Fruit of the Loom. Et, non, je suis totalement fasciné par cette ville, et par cet État, la Californie. Voilà. Donc ça on a gardé, mais autrement on n'a pas gardé. Effectivement, j'aurais pu mettre, je sais pas si ça avait de l'intérêt, mais texte que j'ai pu faire sur Mario Lévy, rencontré à Istanbul dernièrement, par exemple, ou les textes que j'ai fait sur mon séjour en Colombie pour préparer les Belles Étrangères Colombie il y a pas si longtemps, enfin il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. J'ai pas, ça me paraissait pas opportun.
D'accord. Si Frank Lloyd Wright, donc dont vous parlez, parce que c'est donc l'architecte dont il est question dans le roman Les Femmes de T.C. Boyle, mm-hmm. et dans un autre roman aussi d'ailleurs que vous ne mentionnez pas là, mais qui était très apprécié des critiques dont vous faites partie. Donc c'était Loving Frank.
Ouais, Nancy Horan.
Nancy Horan. Donc si Frank Lloyd Wright, vous proposez de vous construire une maison là comme ça demain, s'il revenait, s'il ressuscitait, vous choisiriez quelle ville, quel village, quel pays?
Il l'a fait la semaine dernière.
Ah bon.
D'une certaine
manière, pas vu dans les journaux.
Il l'a fait la semaine dernière. Vous allez le lire bientôt. Alors d'abord, je trouve cette proposition extrêmement plaisante. J'aimerais bien qu'il me propose ça. Donc je pourrais vous répondre que je souhaiterais que ce brave Franck ne se fatigue pas et qu'il me cède quelque chose qui existe déjà. Je pense à la maison qu'il y a dans La mort aux trousses d'Hitchcock, par exemple. Ça serait pas mal. Je pense surtout à... Pour moi, au plus beau film d'amour de tous les temps, le plus beau mélo d'amour qui ait jamais été réalisé, qui est un mélo de Richard Quine avec Kim Novak et Kirk Douglas, où un homme marié qui aime une femme, qui n'est pas la sienne au regard de l'état civil, et qui ne peut donc totalement se consacrer à cet amour, en tant qu'architecte, décide de lui construire la plus belle maison qui soit. Ça s'appelle... Ça va me revenir parce que je crois que le titre anglais c'est Strangers When We Meet, mais je me souviens plus du titre français. Vous voyez, je suis snob effectivement. et cette maison là est sublime, mais je crois pas qu'elle soit de Frank Lloyd Wright. Alors, si je vous disais qu'il me l'a proposé la semaine dernière, c'est parce que dans le cadre de mes voyages justement, la semaine dernière, j'ai été rencontrer le parfumeur de chez Hermès, Jean-Claude Elena, qui publie un très joli petit livre qui s'appelle Journal d'un parfumeur chez Sabine Vespieser ces jours-ci. Et Jean-Claude Elena, quand il a récupéré la charge de parfumeur en chef, je ne sais pas comment on dit, d'Hermès en 2004, a aussi souhaité que Hermès intègre ses laboratoires dans une maison sublime à Cabris, petit village perché au-dessus de Grasse. Une maison totalement inspirée, faite par un architecte hollandais pour lui. Totalement inspiré par l'architecture organique de Frank Lloyd Wright, totalement, qui s'ouvre sur le massif de l'Estérel, sur Cannes, dans le lointain. C'est une absolue splendeur. J'ai une des plus belles maisons que j'ai vues de ma vie. Donc, si la maison Hermès, qui a peut-être besoin de fonds et de liquidités, voulait s'adresser à moi pour que j'aille écrire mes livres désormais là-bas, je pourrais éventuellement me laisser tenter.
D'accord. Donc ce serait en France.
Ce serait peu importe, ce serait a room with a view.
Vous voyez, c'est snob.
voilà, ce qui compte c'est le point de vue. Le reste, je m'en fiche un peu.
D'accord. Je tentais de vous demander s'il y a j'ai beaucoup aimé l'une des phrases de ce roman en particulier, de ce livre en particulier, c'est
la science.
Donc un pays ne s'apprend avant tout par son assiette, par ses femmes et par ses livres.
Donc c'est... J'ai écrit ça, moi.
Vous avez écrit ça dans cet ordre-là ou...
Vous dites assiette, femme et livre.
Oui. Ah, vous avez osé.
Peut-être
écrire
que pour
ça,
les femmes, désolé, mais... il convient de ne pas trop être porté sur l'assiette au préalable. Et laisser les livres au jour d'avant ou au jour d'après. J'ai écrit ça en mettant ça. Ça me revient maintenant parce que je pense pas ça moi. Mais je trouve que c'est un peu, c'est presque un peu vulgaire. Mais j'ai écrit ça en mettant ça dans la bouche de ce pauvre Mort Schumann qui n'y peut mais parce que j'ai écrit un texte au départ pour un livre déjà du Festin qui s'appelle La Lumière du Sud-Ouest, dans lequel j'ai essayé de me glisser dans la peau de Mort Schumann qui, vous le savez peut-être, est enterré à Bordeaux, Codéran, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer ici. Et parfaitement baroque. Et Mort Schumann aimait beaucoup les plaisirs de la table, aimait beaucoup les femmes. Et je ne suis pas sûr qu'il aimait beaucoup les livres, mais enfin bon. Voilà. Donc, non, je dirais. Méfie de ce genre de phrases un peu définitives, mais quand elles sont prononcées depuis le tombeau, puisque je l'ai fait prononcer depuis son tombeau, on peut s'autoriser des phrases quelque peu définitives de ce genre.
D'accord. J'aimerais en particulier parler d'un des auteurs que vous avez rencontré, qui fait peut-être partie de vos amis, donc quelqu'un qui est encore en vie, pas un fantôme. Et il s'agit de Jean Echenoz. J'aimerais juste vous dire, commencer par le titre que vous avez choisi, ou Xavier Rosan peut-être, qui sait, La disparition de Jean Echenoz.
Alors, oui, non, ça c'est, je l'ai choisi en effet.
Comment avez-vous osé faire disparaître, même si c'est pas dans ce sens-là qu'on entend bien en lisant le texte qui suit, mais comment oser faire disparaître Jean Echenoz ?
Assez simplement.
Oui.
Et je crois savoir que c'est le cas, si vous connaissez Jean Echenoz, vous savez que ce personnage a l'élégance de ne pas s'imposer trop explicitement dans l'espace. Jean Echenoz n'est pas un fantôme, Dieu merci. Quand je dis Dieu, il faut comprendre Jérôme Lindon, hein, bien sûr. mais il y a chez lui une esthétique de... pas tant de la disparition d'ailleurs, et dans ses livres bien sûr, hein, c'est ce dont je parle, mais de la dissolution, qui, voilà, d'où le titre, qui je le précise, est un, ce texte n'est pas inédit, il a été publié dans Le Festin, et c'est un texte sur les lieux du sud-ouest de Jean Echenoz, c'est-à-dire essentiellement le Pays Basque, qu'il connaît assez bien, et où effectivement, je ne dirais pas qu'il est de mes amis, ce serait tout à fait fallacieux, mais c'est un bon camarade, et où on a pu passer un peu de temps ensemble, voilà.
Oui, donc il parle pas mal du sud-ouest dans Je m'en vais, dans Un an.
Et dans Ravel.
Et dans Ravel.
Bien sûr.
Ravel qui se passe, donc, hein, qui est forcément lié à Cibourg. Oui. Donc, je voulais juste vous lire parce que franchement, ce serait vous parlez beaucoup de fantômes, mais ce serait dommage de.
Alors, c'est amusant parce que le titre, c'était le titre initial que j'avais donné à cet article. Et quand l'article est paru dans Le Festin, ils m'ont changé le titre, les salopards. Et donc, fallacieusement, j'ai profité de la grande fatigue de mon éditeur pour le rétablir. Je ne me doutais pas que cela me vaudrait votre rire. Auquel cas, je n'aurais rien fait.
Bon, je suis désolée de l'avoir pointé du doigt dans ce cas.
Faites.
Je voudrais dire quelques mots quand même sur votre style. C'est toujours délicat de louer un écrivain
quand
il est à côté, mais. Mais vous parliez, donc tout à l'heure je vous demandais si vous regrettiez d'être né si tôt. Votre plume fait penser à celle d'auteur d'un autre temps, celle de. Un petit peu penser à Paul Gaden, entre autres. Et on y trouve une élégance, un raffinement qui sont malheureusement de plus en plus rares aujourd'hui, mais qui promettent du coup de faire votre succès, ou du moins d'y contribuer. Bon, je vais pas dire je m'y engage, ça serait un petit peu...
Allez-y, je bois du petit lait.
Mais c'est vrai que c'est une langue qui est particulièrement agréable à lire, que donc les lecteurs du Sud-Ouest, de Livre Hebdo, de Figaro Magazine, donc ils suivent sans doute assidûment vos chroniques, donc ils sont donc c'est une langue à laquelle on est particulièrement sensible. Et je dois dire qu'il y a une chose en particulier qui m'a frappée. C'est donc votre recours aux figures de style, notamment à une précisément, donc, je ne sais pas si vous voyez à quoi je vais en venir, mais votre usage du zeugma, je n'ai jamais su prononcer ce mot, est absolument génial. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous cacher de sourire, mais il y en a un
exemple,
qui est très très bon, que j'ai trouvé. Et alors, ce serait bien que je le retrouve d'ailleurs là. Ah oui, il y en a plusieurs, mais en particulier, ils n'allaient pas très bien ensemble et nulle part l'un sans l'autre, hein, au sujet de Gérard Philippe et Nicole Foucane. Et on en trouve comme ça au fil de ces textes.
Oui.
Et c'est quand même, ça nous frappe d'autant plus aujourd'hui que c'est une figure de style de moins en moins utilisée. Et donc.
Alors d'abord, merci. Oui, j'aime beaucoup ça, effectivement. J'aime beaucoup ça parce que ces textes en sont composés souvent pour des journaux. Là, c'est le cas. C'était vraiment un grand papier sur Gérard Philippe pour le Figaro Magazine. Et donc, je parle de Gérard Philippe et de Nicole Fourcade, qui est plus connue sous le nom d'Anne Philippe, l'auteur du Temps d'un soupir et de tant d'autres beaux livres, un peu oubliés maintenant, hélas, parce que c'est vraiment très beau. Je pense que c'est toujours difficile de se faire l'exégète de ce qu'on écrit, parce que accordez-moi quand même que ça vient pas toujours très facilement, mais au moins relativement naturellement. J'ai beaucoup lu ce qu'il est. J'ai eu une mauvaise fréquentation dans ma jeunesse. J'ai beaucoup lu les auteurs de droite, et notamment les Hussards. Et des gens comme Blondin ou Nimier pratiquent, dans une dimension absolument sublime, le zeugma. Enfin, ils ne sont pas les seuls, parce que Bernard Franck, qui n'était pas de droite, lui, mais il faut le dire vite, pratique ça aussi de manière admirable. Et je trouve ça extrêmement agréable, parce que je trouve que c'est des aérations de lecture formidables. Après, il ne faut pas que ça tourne à l'esprit de système. Ça, c'est un autre problème. Mais S'il me venait l'idée saugrenue, qui me vient d'ailleurs, d'écrire un roman, j'essaierais de ne pas multiplier ce genre de zigouigoui sémantique qui pourrait peut-être en rendre la lecture quelque peu pesante au bout d'un moment. Voilà.
Non, pour, je tiens à vous rassurer, ce n'était absolument pas le cas dans celui-là.
Ouais, non, mais c'est pas un
mais,
roman.
Ouais.
Sur des textes un peu courts, ça donne du nerf, ça donne de... Mmh. Il me semble, enfin, j'espère, ça donne... En plus, quand vous êtes dans une espèce d'alanguissement un peu nostalgique comme ça, de temps en temps, avoir un petit c'est pas mal, quoi. C'est...
Non, vous avez raison, ça réveille le lecteur qui s'endormait, finalement. mais c'est vrai qu'on sent que vous vous amusez quand même dans l'écriture donc de ces textes, et j'espère aussi, du coup, de votre roman à venir.
Pas du tout.
Mais...
Pas du tout. Je déteste écrire.
Oui, bien sûr.
Non, mais c'est vrai.
Pourquoi faire votre métier ?
C'est pas faire grand-chose d'autre. Hein. Mais non, j'aime pas ça du tout. J'adore avoir écrit. J'adore être là, m'entendre dire des choses agréables par des gens qui sont de fins lecteurs, mais ça ne me surprend pas. Mais toutes ces espèces de flatteries d'ego sont absolument charmantes. Mais n'empêche que le temps de l'écriture, alors là, je peux vous dire, il y a ici un certain nombre de personnes qui savent de quoi je parle. Ça dépend, c'est peut-être pas pour tout le monde pareil, mais c'est pas le moment le plus père tranquille de mon existence. Je suis pas très très fan de ça. Vraiment pas. Et quant au roman, ça, je pense que ça va être pire encore, parce que ça... Je retarde toujours, j'ai toujours un truc à faire, un article à lire, un bout de texte à lire, un chien à promener, un enfant à élever, ou que sais-je encore, plutôt que de me mettre à ce que je devrais faire, ce qui est mon travail, écrire des textes, écrire.
En tout cas, vous le cachez admirablement, parce que c'est vrai qu'on a... Entre les figures de style, entre le raffinement qui émane de ces textes et aussi des choses, des références très nombreuses qui sont souvent assez drôles, qui donneraient presque l'impression de lire du Queneau. J'ai vraiment l'impression que vous vous amusez, donc j'ai retenu un certain nombre, notamment d'emprunts et de détournements qui donnent l'impression qu'on est en train de lire un palimpseste, en fait, ni plus ni moins.
Queneau, vous me flattez, parce que je pense que c'est un des plus grands écrivains français du XXe siècle. Relativement méconnu, parce que c'est pas forcément les livres les plus importants de Queneau qui sont connus, mais si vous lisez, là aussi je suis un peu cuistre, pardon, hein, mais c'est mon métier... un roman comme Odile, par exemple, est une des plus belles choses que j'ai lues de ma vie. Enfin, c'est... quel extraordinaire écrivain, c'est ça.
Odile. Ouais. Les fleurs bleues.
Ouais, aussi. Ouais.
Donc, moi, je pensais tout particulièrement à la fin du très beau texte sur T.C. Boyle, Frank Lloyd Wright. Donc, est-ce que vous vous souvenez heureux, ça,
je le citerai
emprunté
pas.
à Dubélé. Enfin, détourner.
Ah oui. Bah oui, c'est vrai. Oui, je fais des citations sans même m'en rendre compte des fois. Faut que je m'en méfie d'ailleurs parce que.
Oui, ça vous arrive souvent quand même. Hein. Faudrait. Ouais. Ce sera surveillé.
Pour l'instant, il n'y a pas eu enfin, à ma connaissance, c'est pour ça que je vois le festin, mais de procédure judiciaire des ayants droit de Joachim Dubélé, mais qui doit être dans le domaine public par définition. Donc on est tranquille. Oui, j'aime bien, effectivement. Alors, le temps de l'écriture n'est pas un temps très amusant toujours, mais je vous cache pas qu'il peut y avoir quand ça marche, c'est très très jubilatoire quand même. Quand vous avez l'impression que ça marche, faut se méfier d'ailleurs parce qu'en général, moi j'écris beaucoup la nuit, parce que je suis un peu tranquille là. Donc la nuit, ce que vous avez effectivement pour le coup l'impression que quoi que vous fassiez, c'est beau comme du Queneau. Je recommande d'attendre un peu avant de d'envoyer votre texte, la flash froide, comme disait haute citation, du petit matin, enfin du réveil le matin, et où là on voit les choses de manière un petit peu plus réaliste et beaucoup plus douloureuse la plupart du temps.
Et ce roman, d'ailleurs, vous voudriez nous en dire quelques mots ?
Non, je travaille sur un roman, voilà. Je peux vous dire, je travaille sur un roman. A priori pour une éditrice qui est, que j'aime infiniment et pour qui j'ai surtout infiniment de respect, qui s'appelle Sabine Vespieser et qui se déroule dans les années 60, pour l'essentiel, 60-70, jusqu'à nos jours, mais enfin, essentiellement les années 60-70, et en partie, en bonne partie à Bordeaux, et en Espagne, et dans les îles. Voilà, mais j'en dis pas plus, c'est déjà beaucoup quand même. En fait, j'en sais pas plus, donc je voudrais bien vous en dire plus, mais...
D'accord. Est-ce que vous souhaiteriez nous lire...
Tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je lise?
Peut-être pas l'intégralité non plus.
Le prix,
mais
copyright, l'ISBN.
Non, not really. Mais je ne sais pas, par exemple celui sur la Villa Banzai.
Très bien. J'allais vous le proposer.
Ça tombe bien.
Tout le texte?
Oui, c'est assez court.
Allez, courage. Alors ce texte effectivement est inédit, n'est pas paru en volume, vous allez comprendre pourquoi assez rapidement. Ils ont détruit la Villa Banzai, une folie néo-basque et crypto-mexicaine érigée à la fin des années 20 par l'architecte Henri Godbarge pour monsieur et madame de la Arena posant leurs bagages à Saint-Jean-de-Luz après des années d'exil dans les concessions européennes, de Shanghai, Nagasaki et Kobe. C'était ma maison. Celle qui me permet de revendiquer une enfance avec vue sur la rune, aux nuits traversées par le souffle des trains en partance pour l'Espagne. Et puis, il y avait là, dans un encorbellement de l'entrée, surplombant une volée de marches, un vieux fauteuil de jardin à la toile fanée où le jeune homme que j'étais a pu envisager de vieillir. Et maintenant que c'est fait... Alors, puisqu'il faut répondre à l'injonction d'être de quelque part, puisque cette villa, cette ville, m'offrait le monde, ou du moins son écho... Alors même peu, même mal, même sans les privilèges de la naissance, je suis d'ici, je suis de Saint-Jean-de-Luz. C'est ici que j'ai appris la lenteur des choses et d'abord celle des crépuscules dans cette ville dont les cieux si souvent se pomponnent pour la fin du jour. Et à cette heure-là, il y a dans l'air, dans ces effilochés de nuages parmes, or et bleu-gris, un rien de la Californie, de sa lumière liquide qui paraît ne jamais devoir s'éteindre. C'est auprès d'un grand-père qui avait tout perdu, la vue et la fortune, mais n'avait rien oublié du rang qu'il estimait devoir tenir, que je fis mes humanités en hédonisme. C'était le dimanche matin, à la terrasse du bar basque, en croquant des chips et bouffant du curé. Il y avait un garçon de café qui s'appelait Isidore, et un cocktail rouge sang assorti à la veste en panne de velours de mon grand-père. Après, l'usage de Saint-Jean est des plus simples. Il suffit d'y suivre sa pente, de s'abandonner à la douceur des choses. Loin de ces terrasses romantiques, Bordaguin, Monte Igualdo ou Latalaï, qui donnent au pays un genre volontiers furibard, Saint-Jean est une assaise sensuelle. Il n'y est question que de s'y laisser faire. C'est une ville délicieuse, superficielle et tragique, faite pour des visiteurs qui ne le sont pas moins. Louise de Villemorin, Serge Liffard ou Irwin Shaw, qui furent de ceux-là, parmi tant d'autres, ont dû s'y sentir bien. C'est une ville qui sait se tenir, ce qui n'est pas désagréable. C'est une vieille dame bourgeoise, un peu moustachue, assez ironique, dont on devine qu'elle a eu ses beaux moments et n'a pas totalement renoncé à la tentation de l'indignité. Avec elle, le siècle écoulé fut ingrat. Pêcheurs, armateurs ont disparu, même les poissons ont fichu le camp, et tant de jolies choses avec eux. Où sont passées les usines chancerelles ? Le fantôme de Firmin Van Bray hante-t-il parfois les chambres demeurées vides des motels de Sainte-Barbe? L'hôtel Maïtagaria a fermé ses portes. Au mur du bar basque, les panneaux de floutiers s'en sont aussi allés. Bientôt, les feux d'André Pavlovski, encadrant l'entrée du port, n'éclaireront plus qu'une nuit, une mer, également déserte. Qu'importe. Tant qu'il y aura des taureaux de fuego, des batailles de confettis, des filles blondes, belles comme des fleurs, à embrasser l'été venu dans la pénombre de la rue de la République et l'espoir d'un dernier verre à la marine. Voilà. Merci.
Merci. Voilà, on va s'arrêter là.
Oui.
C'est oui,
merci,
l'esplègement.
Merci beaucoup, Fleur.
Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Moi, je vous remercie à tous d'être venus.
Merci infiniment. Je voudrais remercier quand même la librairie Mola et très singulièrement pour la qualité de sa lecture. Mais je n'en doutais pas parce que j'avais souhaité qu'elle soit à mes côtés pour m'assister dans cette épreuve qui n'a pas été si douloureuse, Fleur Aldebert, dont les, je vous invite beaucoup à aller lire le blog des libraires de la librairie Mola, et les textes, les notes de blog, je ne sais pas comment on dit ça, je trouve que ça fait note de pressing, je trouve ça complètement absurde, mais de Fleur Aldebert sont d'une qualité qui rend jaloux le journaliste littéraire que je suis. Voilà, il fallait que ce soit
merci
dit.
Beaucoup.